rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de la bienheureuse Marie-Rose Durocher, fondatrice de la Congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, une grande communauté très importante, communauté québécoise, communauté d'éducatrices, communauté qui, en particulier, a fondé l'Institut, l'École Vincent d'Indy, et nous entendrons d'ailleurs aujourd'hui de la belle musique de César Franck. Marie-Rose Durocher est morte il y a 150 ans demain. Elle est morte d'ailleurs le jour de son anniversaire de naissance, et elle est morte très jeune, à 38 ans. 38 ans, elle avait déjà accompli des choses absolument merveilleuses. Elle a été béatifiée le 23 mai 1982. C'est donc le 6 octobre 1811, que Lalie Mélanie Durocher, fille de Olivier Durocher, elle était d'ailleurs la petite-fille d'un Olivier Durocher. Elle était même l'arrière-petite-fille d'un autre Olivier Durocher. Et elle est née à Saint-Antoine-sur-Richelieu, tout près de Montréal. De cette ascendance, très enracinée au Québec, Eulalie Mélanie va retenir plusieurs traits importants. D'abord, cette ténacité paternelle bien québécoise. La finesse maternelle aussi, comme nos mères sont bonnes et étaient bonnes en tous les cas. J'espère qu'elles le sont toujours, et j'en ai rencontré encore une autre. Vendredi dernier, quand je suis allé prêcher à la chapelle de la Réparation, une jeune mère avec son enfant dans les bras, tellement sympathique, extraordinaire, une auditrice fidèle de Rencontres spirituelles et de Radio Ville-Marie. L'intelligence courageuse des Québécois qui ont lutté après la conquête, la force dans le sacrifice, elle connaissait ça. Son père, d'ailleurs, était de la race de ceux qui ont la dignité des chefs de file, comme le dit si bien dans une biographie magnifique de leur fondatrice, une sœur de la congrégation, Jacqueline Baudet. Sa mère, Geneviève, qui est devenue orpheline assez tôt, a été adoptée, imaginez, c'est assez extraordinaire, par la seigneuresse de l'île d'Orléans. Elle a été formée au pensionnat des Ursulines de Québec. C'était une maison d'enseignement extrêmement intéressante et qui a toujours été intéressante, les Ursulines de Québec. Hein. Les filles de la bienheureuse Marie de l'Incarnation que vous connaissez. Et sur sa famille, sur sa fille, la plus jeune, mais cette mère aura une influence douce et ferme, mais surtout profondément chrétienne. Et cette éducation va faire d'Eulalie Mélanie Durocher une jeune fille qui va être à la fois, évidemment, courtoise, sa mère ayant été éduquée par une seigneuresse, j'imagine qu'elle a dû recevoir une bonne éducation, et chez les Ursulines aussi. Elle était toute jeune, maîtresse d'elle-même. Elle était simple aussi. Elle était affable. Tout le monde l'a reconnue jusqu'à sa mort. Tout le monde. C'est sa réputation. Et c'est sérieux, c'est pas des mots d'agiographie, là. Parce que tous sont unanimes, ses sœurs, ses frères, les amis de la famille, tous. Eulalie Mélanie était sereine, joyeuse, capable d'humour. Elle était douée d'un charme naturel qui lui attirait l'affection de tous. Et c'est toujours merveilleux quand on rencontre quelqu'un comme ça. J'aimerais ça, moi, être comme ça. C'est tellement beau quand on rencontre des gens, hein, puis ils sont naturellement agréables. Ça doit donc être merveilleux que d'être comme ça, j'imagine. Et nul mieux qu'elle ne savait, dit-on, s'adapter plus facilement. Elle s'adaptait, vraiment. Et tous ceux qui l'approchaient étaient ravis par son tact. Ah, elle avait un grand tact, puis elle avait un bon jugement, puis un merveilleux sens pratique aussi. Et très jeune, elle a appris l'attention à l'autre, hein, s'occuper des autres. Il y avait chez elle comme une sorte d'harmonie des contrastes, une ténacité, une souplesse. Il y avait de la fermeté, de la douceur aussi, puis de la fierté, puis en même temps de l'humilité. car la fierté n'est pas contraire à l'humilité. C'est l'orgueil qui est contraire à l'humilité. Mais elle avait un enthousiasme qui entraînait, puis en même temps, une discrétion. Elle était vraiment complète. Elle avait aussi des tendances mystiques, mais elle avait le sens aigu des choses à faire, des réalités que l'on considère comme quotidiennes. Puis au foyer familial, ben, elle a appris de son aïeul paternel, le grand-père Olivier, qui avait été soldat de Carillon. Vous vous souvenez de notre victoire sur les Anglais à Carillon? Eh bien, la lecture, l'écriture, la grammaire, l'histoire, l'épopée de l'histoire du Canada, tout ça, le chemin du roi, hein, la route qui mène à Québec, ou de Québec à Montréal, le système de la tenure seigneuriale aussi, elle a appris ça. Il y avait 12 seigneuries, hein, qui étaient des foyers de colonisation puis de civilisation, si on peut dire. Et la lutte contre les Iroquois, elle a étudié ça, je vous en ai déjà parlé un peu. Et contre les Anglais, je vous en ai parlé aussi avec l'émission consacrée à Montcalm, au début du mois de septembre. Alors Eulalie Mélanie, elle méditait ça, ces leçons-là. Puis elle se préparait à comprendre les troubles de 1837 auxquels elle va assister. C'est une rébellion, hein, de la part de Canadiens de langue anglaise et de Canadiens de langue française, les deux, contre les Anglais d'Angleterre. Et elle va voir des patriotes des deux langues, mais particulièrement francophones, exaspérés par l'injustice, et qui se sont armés de faux et de fourches pour triompher à Saint-Denis, en face de Saint-Antoine-sur-Richelieu, justement, où elle est née, pour succomber ensuite à Saint-Charles, parce que la lutte était vraiment inégale contre les Anglais. Si pour Eulalie Mélanie, la terre et le Richelieu, c'était pour elle des livres d'histoire québécoise, tous ces villages, depuis la frontière canadienne de Saint-Jean et Iberville, Saint-Mathias et Chambly, Saint-Hilaire, Belle-Oeil, Saint-Bruno, dont je vais vous parler demain, Saint-Bruno, pas le village, le Saint, et Saint-Marc, Saint-Antoine, Saint-Denis, Saint-Roch et Saint-Ours, où il y a une communauté des béatitudes, hein? Et puis jusqu'à Saint-Joseph et Sorel, c'était, avec leurs clochers puis leurs paroisses, comme un livre de vie, puis même le livre de Dieu, car c'est à même la terre, à même la vie, là, que Eulalie Mélanie du Rocher a reçu toute sa formation. Elle était faible de santé, par exemple. Elle a peu fréquenté l'école et à peine 2 ans au pensionnat de Saint-Denis. À peine 6 à 7 mois au pensionnat de Montréal. Toutefois, ces 2 étapes où elle a vécu d'abord comme couventine et ensuite comme aspirante au postulat des dames de la congrégation, les sœurs de la congrégation qui l'avaient formée, de 1827 à 29, là, ça a suffi pour susciter en elle deux rêves qui vont devenir réalité profonde, celui, quoi, d'être vouée à Marie. Alors, elle va fonder les sœurs des saints noms de Jésus et de Marie. Marie pour qui elle avait un grand amour puis une si grande confiance, et celui d'être un jour religieuse et religieuse, vouée à l'éducation chrétienne. Alors, Eulalie Mélanie n'a pas 20 ans quand elle perd sa mère. Et c'est elle, la dernière, la plus fragile, que ses frères et sœurs désignent spontanément pour remplacer à la maison de Saint-Antoine-sur-Richelieu cette femme forte, cette femme, cette mère canadienne, québécoise, dont parle la Bible, finalement. Plus de 2000 ans avant, et qui était l'âme et le cœur dans ce foyer aux mœurs puis aux traditions patriarcales bien québécoises. Consentir aux événements, oublier son double chagrin, oublier la perte de sa mère, ce nouveau sursis qui l'empêche de répondre à son désir d'être religieuse pour devenir quoi consolatrice de tous dans sa famille. C'est la volonté de Dieu, et Eulalie Mélanie comprend, puis elle accepte, et étape par étape, bien, elle va apprendre l'abnégation. Et heureusement, évidemment, bien, la foi grandit en elle. Quand on se donne, la foi grandit, quand on a déjà la foi. Elle est chaque jour plus attentive à la présence agissante de l'Esprit-Saint en elle. Et dès l'automne, son frère la réclame comme hôtesse du presbytère où il vient d'être nommé curé à Saint-Benoît, puis elle accepte. Alors, être au service de Dieu puis des autres, c'est le chemin indiqué, consentir à la réalité, là, une fois de plus, mais ce sera quoi? Accepter la croix, que les événements de la vie nous imposent. Ce n'est pas nécessaire d'aller chercher des souffrances spéciales, on en a déjà amplement. Et Eulalie l'apprend à travers les réalités quotidiennes, comment accepter la croix et la porter. Et bientôt, le jeune curé et son frère est transféré à Belœil. Elle reprend sa liberté, puis elle retrouve Saint-Antoine, sur le Richelieu, son petit coin de pays, sa chère maison, et pour si peu de temps. De nouveau, Théophile, son frère, revendique la présence de sa sœur. Il convainc M. Durocher. Alors, il a dit, Mélanie accepte, et pourquoi ne se laisserait-elle pas façonner? Pourquoi pas se laisser façonner, hein? Par cette nouvelle action de Dieu en elle. Et là, une fois de plus, la paix et le bonheur des autres seront au cœur même de son dévouement. Puis elle va en profiter, oui, elle va en profiter pour s'entraîner à l'exercice de responsabilités diverses. C'est important quand on veut fonder une congrégation plus tard. Et prendre une vue plus large des besoins de la société de son temps aussi, c'est très important. Alors, une meilleure compréhension de son temps et de son milieu va signifier pour elle quoi? Un approfondissement du sens des réalités de la vie quotidienne, allié au sens des réalités spirituelles, évidemment. Tout comme l'avait vécu Marie de l'Incarnation, dont je vous ai parlé, c'est cet autre mystique d'ici, hein, qui semble avoir porté à son plus haut degré la perfection de l'idéal évangélique, de la vie quotidienne aussi, des premières générations chrétiennes au Canada. Deux mystiques, quoi. Oui, deux mystiques. Fort différentes. Marie d'Incarnation et Marie-Rose Durocher, car elle voulait prendre le nom de Marie-Rose en religion. Mais c'est des femmes pratiques dans l'intégration de leur foi en l'action de Dieu. Une plus large vue des besoins de la société puis de la paroisse va signifier aussi, pour Marie-Rose Durocher, la future Marie-Rose Durocher, redécouvrir quoi le respect du prêtre, car elle croit toujours à l'influence du prêtre, comme je la comprends. En dépit du mal, d'un mal du temps, hein, on écrit, depuis les origines du pays, si la foi était restée intacte, la pratique religieuse avait faibli au début du 19e siècle. Le clergé était fort discuté au Parlement et sur la place publique par l'élite professionnelle et par la petite bourgeoisie des marchands en particulier, et la division des prêtres, la participation de certains curés à la réaction libérale et révolutionnaire là, des années 1830-1837, ça crée des tensions, des difficultés entre religieux et quelques prêtres de la rive nord du fleuve, autant de faits connus de tout le monde. Alors, Eulalie Mélanie, si elle a voué une sorte de culte au sacerdoce, ce serait bien sûr à cause de sa grande foi en l'Eucharistie. Mais surtout, parce que d'un côté, elle voyait le peuple entraîné dans l'irrespect, et que de l'autre, elle pressentait, elle, un danger plus grave en un sens, c'est que le prêtre, exposé à se sous-estimer, voire à se déprécier lui-même, en finisse par se décourager, comme ça arrive de nos jours. Et ainsi, jusqu'en 1843, elle va être l'hôtesse et l'intendante accueillante de ce presbytère, que l'on appelait la maison des prêtres, puisque le bon curé, son frère, y invitait des ecclésiastiques, des séminaires, afin qu'ils reprennent force et enthousiasme. Et la qualité de cet accueil avait pour source, quoi? Son intimité avec Jésus, tout simplement. Car Jésus est son Dieu, son confident, son pain de vie. Et durant toutes ces années, elle approfondit son grand amour pour Jésus hostie, comme on dit. Dieu présent dans l'Eucharistie. Sommes-nous conscients qu'il est vraiment présent dans l'Eucharistie, hein, présent à l'Église paroissiale? On passe devant le Saint-Sacrement souvent sans faire de génuflexion. On n'ose pas plier le genou devant cette présence fantastique de Dieu dans le temps et l'espace. Parce que l'Église, c'est la maison de Dieu, c'est le château de Dieu, comme disait mon petit-fils quand il était enfant. Et des paroissiens aussi, c'est la maison des paroissiens. Une maison qui réunit tout le groupe socio-religieux. Puis Eulalie Mélanie vit de cette foi en québécoise autrefois, en canadienne d'une longue tradition de vie paroissiale. Elle y met toute son espérance et l'on peut dire qu'elle a été heureuse d'être au service du prêtre, des prêtres, de la paroisse et des paroissiens. Alors quand, en 1841, les pères Oblats sont arrivés au Canada, je vous ai déjà parlé de ça, le père Telmont découvre en Mademoiselle Durocher celle que Dieu a préparée pour devenir chef de file. Déjà, Eulalie Mélanie s'est consacrée à Dieu par vœu privé. Quand cet homme-là lui propose, lui, de fonder la première congrégation paroissiale des filles de Marie Immaculée, puisqu'il est oblat de Marie Immaculée, Eulalie va accepter, elle va être spontanément élue présidente. Et par cette fonction-là, elle se prépare à son rôle futur d'animatrice spirituelle. Puisque quelques mois plus tard, Monseigneur Ignace Bourget, dont je vous ai déjà parlé, évêque de Montréal, va l'inviter à fonder une nouvelle congrégation religieuse vouée à l'éducation chrétienne qui est gravement en danger chez nous. Les documents de l'époque nous révèlent que l'éducation laissait à désirer, justement, et que beaucoup de pauvres enfants étaient privés de ce grand bienfait. À la suite de la conquête, ça a été terrible. Les historiens d'aujourd'hui se basent sur les archives pour faire éclater un grand malaise et ont subi déjà les conséquences de changements politiques et sociaux dus à la présence d'une conquête protestante. Et en effet, la montée d'une certaine bourgeoisie moyenne, ça favorise l'émergence d'une conscience laïque. Certains défendent des idées fort libérales, comme aujourd'hui, et orientent l'enseignement vers des préoccupations nationales et politiques, dit-on, plutôt que religieuses et morales. C'est exactement le même problème qu'aujourd'hui. De plus, l'ignorance la plus profonde, c'est dans un ouvrage intitulé « Le curé de campagne, la contestation locale au Québec » de 1791 aux troupes 1837-38, publié chez Urtubise, par Chabot. Eh bien, l'ignorance la plus profonde règne dans nos campagnes. L'éducation, la meilleure fortune qu'un père puisse laisser à ses enfants, est entièrement négligée, écrit-il. Et depuis le début du siècle, les évêques réagissent avec vigueur et certains mandements du 18e siècle nous indiquent qu'à la campagne, l'enseignement primaire, écoutez bien, n'est pratiquement pas organisé. C'était triste pour nos ancêtres. Il existe peu d'écoles dans les milieux ruraux. Moi, ma famille vient de la campagne, ils ont dû en souffrir. Elles sont surtout concentrées dans les villes, favorisant ainsi un enseignement qui s'adresse aux élites. Et en 1838, Monseigneur Lartigue, évêque, déclare « Élevez dans vos dessertes autant d'écoles chrétiennes qu'il vous sera possible. » Mais quant à Monseigneur Ignace Bourget, lui, évêque de Montréal, là, depuis à peine 2 ans, on voit dans les archives communautaires de la congrégation des sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie, le signal qu'il voyait avec peine que la portion chérie de son troupeau, comme on dit, c'est-à-dire les pauvres enfants de son vaste diocèse, était privée d'instruction faute de moyens. Et dans sa sollicitude pastorale, on trouve ce texte-là, là, il vit avec joie que Mademoiselle Durocher serait bien celle qui pourrait seconder les ardents désirs de son grand cœur d'apôtre. Alors, un prêtre qui a vécu au presbytère de Belœil témoigne que de son côté, la Mademoiselle Durocher désirait pour chaque paroisse et campagne un petit couvent. Oui, un petit couvent pour l'éducation des jeunes demoiselles, afin de les préparer à leur rôle dans la société et dans les familles. Une société et des familles, en voie de progrès matériel, mais en régression religieuse. Et c'est pourquoi l'appel de Mgr Bourget, Eulalie Mélanie Durocher, passera sans tarder de l'idée à l'acte. De l'idée à l'acte, c'est ça qu'il faut faire dans notre vie, hein. Comme elle le faisait toujours, elle. Pour ça qu'elle est devenue bienheureuse et qu'elle sera sainte un jour. Et pour elle, et de plein accord avec l'évêque de Montréal, il fallait commencer par le plus précis, quoi? Assurer l'éducation de toutes les jeunes filles, mais surtout aux plus pauvres. Les jeunes filles aisées pouvaient aller dans les pensionnats des villes, car les villes avaient des écoles, mais les campagnes en avaient peu. Et à leur tour, ces jeunes filles, même pauvres, iraient vers la classe populaire de la société, cette majorité devenue ignorante, et ainsi, les choses de la religion seraient rendues accessibles à tous dès l'école. Alors Eulalie Mélanie Durocher a accepté d'être la postulante d'une congrégation française, les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie de Marseille, mais elle revient vite sur sa décision, mais ces religieuses ne sont jamais venues au Canada. Mais avec deux compagnes, finalement, Eulalie Mélanie consent à fonder la première congrégation canadienne, fondée par une Canadienne, là, une congrégation qui était franchement désirée par Monseigneur Bourget. Et puis, c'est voué à l'éducation chrétienne, quoi. Et voilà qu'à Longueuil, dès le début, les externes, issus des familles moins favorisées, là, puis les pensionnaires, qui appartenaient à la portion plutôt aisée de la société québécoise, auront le même programme d'études. Alors, replacé dans le contexte historique, son acceptation et le geste de sa fondation qu'elle pose font réapparaître dans une vraie lumière les grands traits de sa personnalité, c'est-à-dire une vision personnelle des événements, une justesse puis une ampleur de vue remarquable, et surtout un engagement entier d'elle-même, au service de la société et de l'Église. Un engagement entier d'elle-même, oui. Elle le rappelle d'ailleurs, rien n'est au rabais. Mieux encore, chez elle, le sens social et sens évangélique. Il s'agit de se renoncer généreusement de se sacrifier, quoi. Pour la gloire de Dieu, c'est un sacrifice plein d'amour, ça. Et pour Eulalie, il n'est donc pas question de s'immoler, là, l'expression qui renfermerait une idée de destruction, c'est pas ça du tout. Mais de se sacrifier, c'est-à-dire d'être mis à part, puis se laisser transformer pour le service des autres, à l'honneur et à la gloire de Dieu. Et se faire religieuse, là, puis vivre en religieuse, ce sera pour elle, quoi, répondre à l'appel personnel et constamment renouvelé de procurer la gloire de Dieu en marchant avec générosité à la suite immédiate de Jésus chargé d'une croix. C'est ça, la vie religieuse. On n'entre plus en religion. Peut-être qu'on peut suivre la croix autrement, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir sans religieux, sans religieux, sans prêtre? La spiritualité de la croix n'est pas le propre de Eulalie Mélanie, devenue sœur Marie-Rose et bientôt mère Marie-Rose, première supérieure de la congrégation des sœurs des saints noms de Jésus et de Marie, non. Cette spiritualité, c'est celle que l'Église canadienne a vécue avec héroïsme durant les deux derniers tiers du 19e siècle après la conquête. Chez Mère Marie-Rose, cette spiritualité de la croix ne signifie pas résignation passive. C'est une souffrance assumée, c'est pourquoi elle peut affirmer elle-même « Je suis née pour souffrir, c'est mon partage, je dois en être contente et je le suis en effet. » C'est pas triste. Peu de temps avant de mourir, elle va s'écrire « Mon Dieu, je ne puis vous dire comme Sainte Thérèse d'Avila ou souffrir ou mourir, mais faire votre volonté, voilà mon unique désir. » Même langage spirituel, hein, mais avec la nuance particulière qu'elle a de la conversation courante. Un langage parlé, bien de chez nous, hein. Un langage parlé plutôt qu'écrit, et de façon toute simple, toujours, comme la très grande majorité d'entre nous sommes, simples, même avec Dieu. Car Mère Marie-Rose n'a jamais fait autre chose que de transmettre sa pensée de personne à personne. Nous la connaissons pour ce que la tradition a retenu de ses communications orales, puis de sa correspondance, qui était limitée au strict nécessaire. Aucun long document, aucune conférence, non, aucun livre d'elle, mais sa présence vivante parmi les gens. Et ce qui est encore propre à Mère Marie-Rose, c'est d'avoir adjoint, de façon manifeste et constante, à l'héroïque spiritualité de la croix, celle plus intime de la présence de Dieu en elle, c'est très important, puis de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Elle, cet hôte voilé, mais vivant, présent, et qui ne nous quitte plus, dit-elle, mais en nous, vous nourrissant de Jésus hostie, crie-t-elle encore aux sœurs de Belleuil, c'est en vous nourrissant donc de Jésus hostie que vous trouverez la force de ne vivre que pour Dieu seul. C'est vraiment une belle mystique de chez nous. Aux paroles simples, on ne pouvait aimer Marie, disait-elle d'autre part, sans aimer Jésus. Pour Marie-Rose du Rocher, l'invocation des saints noms de Jésus et de Marie devenait source de confiance et d'espérance. Aujourd'hui, les questions de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher, une femme de chez nous, qui en peu d'années a accompli une œuvre magistrale, une œuvre qui a eu une importance extraordinaire dans la formation des jeunes filles chez nous et dans la formation même artistique et musicale. Je le signale car j'ai déjà lu de la plume même de femmes qui ont, malheureusement, semble-t-il, quitté l'Église, reconnaître dans des journaux, par des articles substantiels, la grande valeur de ces Québécoises qui sont devenues religieuses chez nous, et qui ont donné leur vie pour former ces mêmes femmes qui reconnaissaient bien que l'enseignement qu'elles avaient reçu avait une valeur énorme. Dans sa pensée à Mère Marie-Rose, l'œuvre même de l'éducation chrétienne supposait la mission d'honorer puis de faire honorer les saints noms de Jésus et de Marie comme première tâche. Ça n'est pas quelque chose d'un peu étrange que d'honorer le nom. Il est bien dit dans l'Épître aux Philippiens qu'au nom de Jésus, tout le monde s'incline partout, même dans les enfers. Cette importance de l'enseignement religieux, elle n'hésitait pas à l'imposer fermement à ses sœurs et que deux fois elle insistait sur la fin première de l'œuvre qu'elle a fondée, c'est-à-dire l'instruction religieuse, l'enseignement du catéchisme. Pas purement du par cœur, l'approfondissement de notre foi. On appelait ça le catéchisme dans ce temps-là. C'est la réciproque aussi de la fin première, ou du but premier de cette congrégation, qui est la sanctification des membres, des sœurs de la congrégation des saints noms de Jésus de Marie, doivent être des saintes. Né en 1844 et 1847, l'ignorance est grande parmi le peuple québécois. Plus grave encore est l'ignorance religieuse, comme de nos jours. Telle va être la mission, celle des sœurs. Mission à la fois sociale et évangélique. Mais est-ce que cette communauté va pouvoir mener à bien cette double mission? Partout, on dit à Mère Marie-Rose que c'est folie, que sa famille même la juge incapable d'entreprendre cette œuvre avec si peu de moyens. Est-ce qu'elle sera la seule des Durocher à se rendre ridicule aux yeux de tous avec ce projet voué à l'échec? Alors elle s'en remet à Dieu seul. Elle compte sur l'évêque de Montréal, évidemment, et sur le courage de ses deux compagnes, et très tôt, M. Brassard, curé de Longueuil, sera gagné à la cause. Il va devenir grand bienfaiteur. Puis le père François Allard, un oblat de Marie-Immaculée, qui va être nommé directeur spirituel et pédagogique, puis on le tient pour un parfait religieux, heureusement, pour un homme sage et éclairé. En France, il a grande réputation comme professeur de philosophie et d'écriture sainte, selon Mgr de Masneau, fondateur des oblats, qui est saint. On apprécie son rôle apostolique, et on le reconnaît, cet homme, à sa grande discrétion, aussi bien qu'à son franc-parler, et grâce à une formation spirituelle bien orientée dès le départ, les premières religieuses vont pouvoir donner tout entière, se donner, vraiment, tout entière, à l'œuvre de l'éducation chrétienne. Elles vont allier à leur action apostolique une vie de prière, aussi profondément contemplative. Une vie de prière profondément contemplative. C'est essentiel, hein? Les communautés, nos communautés ne seront jamais des saints et des saintes s'il n'y a pas ça. Et de plus, Mère Marie-Rose, non seulement a-t-elle désiré, mais elle a pu assurer à ses sœurs, et cela dès le début de la fondation, une réelle compétence professionnelle. C'est ainsi que deux des cinq premières pionnières de la congrégation ont reçu leur formation pédagogique, ou des frères des écoles chrétiennes de Montréal, qui étaient réputés. Et aux heures de foi, de joie plutôt, aux heures de joie et de réussite, succèdent toujours des heures difficiles. Alors, à Marie-Rose du Rocher, bien les heures d'épreuve ne sont pas épargnées comme à tous les fondateurs, les fondatrices, à tous les chrétiens qui se lèvent. Il faut qu'il y ait toujours du monde pour essayer de les rabattre. Et la deuxième année de fondation n'est pas encore terminée, que déjà surgissent des difficultés. Des difficultés avec la fabrique de Longueuil. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la... disons, les gens qui s'occupent de l'argent. À la cathédrale de Longueuil, ou à l'église, plutôt à la paroisse de Longueuil, elle perd le soutien du curé Brassard, qui va revenir sur son acte de donation, parce qu'il avait été généreux. Parce qu'elle n'avait pas signé. Puis c'était fait lors de tracasseries avec la fabrique. Alors il va réclamer le coût de la maison, des bâtiments, du terrain, imaginez. Quel terrible épreuve. Il va même exiger le remboursement des rentes. Et à toutes ces exigences imprévisibles d'argent, elle se soumet avec sérénité, courage aussi. Mais c'est des sacrifices épouvantables pour elle et ses sœurs. Aux difficultés financières s'ajoutent les souffrances morales, car Sœur Marie-Rose sera la seule à déjouer les intrigues du fameux Chiniki, dont il va être question bientôt dans un congrès à Montréal, et dont nous a parlé le père Emmanuel Lapierre. En onde. Chiniki. Celui que plusieurs vont appeler beaucoup plus tard le prêtre apostat. Il a quitté l'église. Un grand prédicateur. C'est un prêtre important dont la conduite morale semble avoir été effroyable et qui va exercer une influence troublante auprès de M. le curé Brassard, auprès de la population, auprès de certains religieux, peut-être même auprès de quelques religieuses. Mère Marie-Rose en a doublement souffert car toutes ces difficultés ne semble pas tellement dirigé contre elle ou les sœurs, mais contre les pères oblats qui étaient français, et plus spécialement contre le père François Allard, celui dont je vous ai parlé, leur insigne maître spirituel et directeur. Et quand, en octobre 1849, après 2 ans de maladie, Mère Marie-Rose va devoir se préparer à paraître devant Dieu, dont elle se sait aimée, heureusement, c'est dans la plus grande solitude qu'elle va être obligée de vivre cette dernière étape de sa vie. En effet, même si l'abbé, le curé Brassard, s'est réconcilié avec les religieuses, il n'est pas encore l'ami d'autrefois. Il n'est plus l'hôte assidu de la maison. Les pères Zoblat ont peu à peu quitté Longueuil. Le père François Allard est depuis 6 mois nommé à Ottawa, à Bytown. Et Monseigneur Ignace Bourget est souvent trop occupé ou malade. La population est encore quelque peu partagée dans son opinion sur les religieuses. Elles ne sont pas trop différentes des autres femmes religieuses. Elles ont eu pour directeur spirituel des religieux venus de France, imaginez, venus de France. Toujours cette tension entre Canadiens et Français qui date d'environ les années 1700. Déjà, on voit ça à ce moment-là. Une espèce de différence dans la façon d'être. C'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Et elle porte une grande croix de laiton semblable à celle des religieux, en l'occurrence des pères Zoblat, alors ça surprend les gens. Elles font au cœur la génuflexion, tout comme les prêtres, au lieu de s'incliner comme font les moniales. Alors, qu'est-ce qui se passe donc dans ce couvent? Sont-elles des éducatrices trop sévères auprès des enfants? Alors même les succès académiques et les nombreuses visites des parents et des visiteurs ecclésiastiques qui pourtant se termine toujours ou presque par des félicitations et puis des louanges à cause de la qualité de l'éducation, puis académique et religieuse, là, donnée aux enfants riches ou pauvres par les 30 sœurs qui ont fait leur vœu, soit à Longueuil, à Belleuil, à Saint-Lin, à Saint-Timothée. Tout cela ne réussit pas à éteindre la fausseté des rumeurs. C'est des rumeurs troublantes. Et Eulalie Mélanie Durocher, qui a toujours perçu la volonté de Dieu à travers les événements, elle accepte ses diverses et nombreuses souffrances, y compris l'incompréhension, la maladie, la solitude morale et spirituelle. Elle est douce, elle est ferme, elle est respectueuse et courageuse. Elle a beaucoup de déférence, mais elle est authentique, elle est véridique. Jusqu'au terme de sa courte vie, très courte vie. Il y a une espèce d'harmonie des contrastes chez elle. C'est le trait marquant de sa personnalité. C'est le trait marquant de sa sainteté. Au lendemain de sa mort, survenue le 6 octobre 1849, il y a 150 ans demain, chacun n'aura que des éloges pour elle et pour son œuvre. Monseigneur Ignace Bourget, le curé Brassard, la population de Longueuil, les élèves riches ou pauvres des campagnes du Québec, il s'est fait ici partager, entre le chagrin et l'admiration, non que des éloges. Lorsque les paroissiens donc de Belleuil parlaient d'Eulalie Durocher, après son départ, il la nommait déjà la sainte de Belleuil. Sa sainteté était empreinte de simplicité, d'humilité, de zèle apostolique. Elle était gaie aussi. À Longueuil, comme à Belleuil, on aimait la voir prier. Après la communion, sa figure semblait comme illuminée par la présence de Dieu. La veille des grandes fêtes, elle passait parfois la nuit entière en prière, la nuit entière en prière. Faut le faire. Quand il y avait une épreuve, un moment avec Dieu lui redonnait toute sa sérénité. Lors de son procès de béatification, l'étude de ses vertus a révélé que l'ali Marie-Rose du Rocher était remplie de foi. Elle avait une humilité extraordinaire, une confiance en Dieu. Elle était prise d'un zèle apostolique. Mais la vertu qui les englobait, puis qui les dépassait toutes, c'était la charité. Une sainte, c'est une femme pleine de l'amour de Dieu. Monseigneur Bourget affirmait de Mère Marie-Rose, écoutez bien ça, je n'ai jamais vu autant de vertu dans une seule âme. Puis même son vieux père, Olivier Durocher, âgé de 93 ans, y répétait, « L'avez-vous connue? Comme elle était bonne! » Elle a donc été béatifiée le 23 mai 1982, comme je vous ai dit au début de l'émission, et ses restes, où les trouve-t-on? Ben, à la Maison Mère, à Outremont, 1410 boulevard du Mont-Royal, où il y a une chapelle immense et magnifique, où j'ai déjà servi dans mon enfance la messe. Dans cette chapelle remplie de sœurs en costume, qui chantaient d'une seule voix à la perfection, c'était si beau. On présente souvent Mère Marie-Rose comme une sainte secourable qui éteint le feu naturel des maisons en flammes, saviez-vous ça? Mais qui allume le feu de l'amour de Dieu dans les cœurs refroidis, c'est bien, hein? Sa spiritualité donc est enracinée dans cette parole de Jésus. Je suis venu apporter le feu de l'amour sur la terre, et combien je voudrais qu'il brûle. Je répète ces paroles de Jésus que j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis venu apporter le feu de l'amour sur la terre, et combien je voudrais qu'il brûle. Elle est d'avant-garde, Mère Marie-Rose. Elle ouvre la voie, il y a un siècle et demi, à des milliers de femmes, agents de pastoral, éducatrices de la jeunesse. Et comme femme, elle a pris sa place dans l'Église. Elle cherchait à reproduire dans sa vie les actes, les paroles de Jésus puis de Marie. Et c'était une femme d'Évangile, une semeuse de vie, qui enseignait comment incarner dans le quotidien la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Elle annonçait Jésus-Christ. Elle propose encore des réponses à nos interrogations devant les besoins actuels, l'engagement et la prudence, la confiance, la perspicacité, l'humour et l'amour, ça va ensemble, l'audace des saints. C'est une sainte bienheureuse qui, bienheureuse, oui, c'est son titre, elle n'est pas sainte encore, canonisée, mais et, qui n'a pas vieilli parce qu'elle porte, bien plantée au cœur, cette autre parole de Jésus, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Cette parole qui m'a fait vivre. On recourt à elle de partout. Aujourd'hui, les sœurs reçoivent des correspondances, des téléphones. Le petit peuple qui souffre vient à elle, comme à une mère. Les gens simples lui confient leurs besoins quotidiens, comme leur grande détresse. Pour rendre hommage à Marie-Rose, la bienheureuse Marie-Rose du Rocher, à Sainte Marguerite Bourgeois, à Mère Marie de l'Incarnation, et à tant d'autres femmes qui ont fondé et réalisé tant de choses chez nous pour l'éducation chrétienne de nos jeunes filles, de nos femmes, des Québécoises, et pour rendre hommage aussi à tous les prêtres et les frères, à tous les laïcs, catholiques qui ont participé à la formation de notre peuple. Je lis des extraits d'une lettre pastorale de Mgr Raymond Saint-Gelais, évêque de Nicolet. Il écrit le 30 mars dernier, M. Jean-Pierre Proulx de l'Université de Montréal déposait le rapport du groupe de travail sur la place de la religion à l'école. Le groupe de travail prône la laïcisation des écoles, rompant ainsi avec une tradition séculaire. Il propose que notre système public soit fondé sur le respect de l'égalité de tous et de la liberté de conscience et de religion. Je trouve ça très beau. Les écoles publiques deviendraient, malheureusement, laïques. Aucune d'elles ne pourrait s'attribuer un statut confessionnel particulier. Les comités catholiques et protestants du Conseil supérieur de l'éducation seraient abolis. De même que les fonctions des sous-ministres de confession catholique et protestante au ministère de l'Éducation. Et pourtant, Jean-Pierre Proulx est catholique. On prône, par ailleurs, une laïcité ouverte. Ça laisse de l'espoir. Ouvrant les portes de l'école à l'enseignement culturel des religions, à l'animation pastorale et spirituelle, et même à des activités éducatives confessionnelles, en dehors des heures de classe. Ce qui étonne d'abord, dit Mgr Saint-Gelais, c'est que l'on mette de côté le droit des parents de choisir le type d'école qui corresponde mieux à leurs convictions religieuses. Où est le respect de la démocratie? Bien sûr, on peut s'interroger sur les motivations des parents qui choisissent pour leurs enfants l'enseignement religieux et moral catholique. Et le rapport aura peut-être comme avantage d'obliger les parents à se situer clairement par rapport à ce qu'ils veulent avoir, comme héritage chrétien communiqué aux enfants. Mais, pour le moment, une très forte majorité de parents choisit l'enseignement religieux. N'oublions pas que les chrétiens au Québec forment, en principe, par leur baptême, presque 95% de la population, catholique, protestant, orthodoxe, anglican. C'est tout de même incroyable. Il n'y a qu'à peu près 5 ou 6% de gens qui sont musulmans, juifs, athées, franchement, là, depuis longtemps, etc. Il y a évidemment un décrochage, faut pas l'oublier. Alors, les chiffres sont éloquents. Cette année, pour l'ensemble du Québec, toutes religions confondues aux primaires, 81,3% des élèves sont inscrits à l'enseignement moral et religieux catholique. C'est du monde, hein? Dans 99, ça. Plus de 11% en enseignement moral, à peine 6% en enseignement moral et religieux protestant, 1,5% n'en a aucun. 1,5%, c'est tout. On en fait un tas, un plat. C'est incroyable. Au secondaire, 56% des élèves sont inscrits à l'enseignement moral et religieux, catholique, etc. On est en droit de s'interroger sur le remplacement systématique de l'enseignement moral et religieux par un enseignement culturel des religions. C'est incroyable. Il faut bien reconnaître aujourd'hui l'apport culturel et social de la tradition chrétienne dans notre société. L'enrichissement qu'il peut apporter aux jeunes d'aujourd'hui, la bienheureuse Marie-Rose l'avait compris. Ici, je fais mienne, dit l'évêque, la position que les évêques du Québec présentaient à la Commission des États généraux sur l'éducation le 8 août 1995. On lit, la tradition chrétienne représente un facteur culturel et social majeur, non seulement pour l'histoire passée de notre peuple, mais aussi pour son présent, et nous le croyons, disent les évêques, pour son avenir. C'est pourquoi nous estimons que l'éducation religieuse confessionnelle constitue une contribution pertinente et importante à l'initiation culturelle des jeunes générations. Vous savez qu'il y a des athées qui le rappellent, comme Georges Leroux, Jean Larose. Les évêques disent qu'elle ne permet pas seulement de comprendre et d'interpréter l'histoire, la toponymie, c'est-à-dire les noms de nos villages, de nos villes et de nos édifices, etc., les coutumes aussi, les mentalités, les fêtes, la culture de ce pays, plus fondamentalement, l'enseignement religieux sérieux, là, éclaire sur les repères et les convictions qui font durer ce pays du Québec et sur un certain nombre de valeurs qui font partie d'une formation durable. Et nous pensons, disent les évêques, que la dimension religieuse, même dans notre société qu'on dit parfois post-chrétienne, ne peut être renvoyée au seul champ de la conscience individuelle et des églises, soigneusement circonscrites à leurs lieux de culte et à leurs assemblées propres. Elle fait partie de ces raisons communes qui ont fait exister ce pays et qui l'alimentent toujours. Et c'est pourquoi nous considérons que les options religieuses peuvent être présentées et débattues dans un lieu culturel aussi important et public que l'école. Ils ajoutent, nous croyons, que le retrait de l'éducation religieuse confessionnelle et des perspectives qu'elle projette sur les questions humaines fondamentales constituerait un appauvrissement pour l'école, un appauvrissement pour l'éducation, un appauvrissement supplémentaire dans la culture des jeunes générations. Et il ajoute, Monseigneur Saint-Gelais, je me permets d'interroger la pertinence d'imposer un enseignement culturel des religions dans toutes les écoles, comme l'exprimait récemment Georges Leroux, professeur de philosophie à l'UQAM. Toutes les écoles du Québec ne sont pas des Nations Unies. Il n'y en a que quelques-unes, là, à Saint-Laurent, ailleurs, etc. Mais dans le Québec, dans l'ensemble, ce sont des écoles québécoises entièrement de souche, comme on dit. Les autres sont québécoises nouvelles. Ici, à Montréal, on en a plusieurs. Toutes les écoles du Québec ne sont donc pas à Nations Unies. Il a publié ça dans le Devoir le 3 avril 1999, Georges Leroux, que je connais bien. Et par exemple, dit Mgr Saint-Gelais, je vois difficilement comment un tel enseignement pourrait se réaliser dans nos écoles primaires. Et ce type d'enseignement peut très bien arriver vers la fin du secondaire, comme c'est le cas présentement au secondaire 5, mais au primaire, j'éprouve certaines difficultés. Et ce sont les oppositions même du doyen de la faculté de philosophie de l'Université de Montréal et de quantité d'autres, qui, différentes façons, raconte ces choses. Si vous voulez en savoir plus, maintenant, sur la bienheureuse Marie-Rose du Rocher, je vous recommande Par le chemin du roi, une femme est venue. Ça date de 1982, mais c'est toujours très bien fait. Par Sœur Germaine Duval, c'est paru aux éditions Bellarmine. J'ignore si on peut encore le trouver. C'est un ouvrage de 400 pages avec des photos très intéressante qui nous montre l'immensité, même dans les bâtiments, du travail de ces femmes admirables.